Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour nous que de recevoir aujourd'hui Frédéric Gros, non pas pour un essai de philosophie ou de philosophie politique, ni même un essai sur la marche, mais pour un roman. Et un roman passionnant qui s'intitule « Possédé ». Alors Frédéric Gros enseigne à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi, je crois, membre du CEVIPOF. Voilà, donc vos livres de philosophie politique précédents s'intitulent « Le principe de sécurité » et le précédent « État de violence, essai sur la fin de la guerre ». Voilà. Alors donc, possédé. Alors, ma première question est toute simple. Pourquoi ce titre, « Possédé », au féminin pluriel, sans article, alors que l'histoire de la possession de Loudun... Alors, par exemple, Michel de Certeau a publié en 1970 « La possession de Loudun », qui est un livre admirable. Aldous Huxley, en 1952, a publié un gros essai qui s'intitule « Les diables de Loudun ». Il y a eu plusieurs films. Un film polonais dans les années 60 qui s'intitule « Mère Jeanne des Anges ». Un film de Ken Russell au début des années 70 qui s'appelle « Les diables, The Devils ». Il y a aussi un opéra de Penderecki qui s'intitule, je crois, « Les diables de Loudun », il me semble. Voilà, donc... cette histoire a suscité de très nombreuses œuvres, des essais, mais aussi donc des opéras, des films, mais jusqu'à présent, pas de roman. Alors, d'abord, pourquoi ce titre, Possédé ?
Pourquoi le titre ? Si j'avais mis l'article « Les possédés », c'est vrai que... Il aurait pu y avoir une confusion, parce que ça avait déjà été pris au masculin, certes, mais oui. C'est vrai que le roman de Dostoïevski planait comme une espèce de menace. C'est compliqué, le choix d'un titre. Donc c'est vrai que je me suis rabattu à la fin sur Possédé. J'avais pensé aussi à introduire le nom de Loudun. Alors pourquoi est-ce que j'ai fini par choisir Possédé ? Sans article, parce que déjà, il me semble que ça résonne comme une espèce de cri, comme une espèce d'affirmation, comme ça, de constat un peu effrayé, et ça rend, je crois, l'atmosphère de ce qui a pu se passer quand, au cœur d'un hiver des années 1630, on a déclaré que à l'intérieur d'une petite ville du Poitou, le couvent était possédé. Donc voilà, c'est l'idée, c'est que ça sonne comme une espèce de cri un peu d'effroi et de stupeur.
D'accord. Alors effectivement, il s'agit principalement de cette possession. Alors comment la qualifier ? Mystico-érotique ?
Mystico-érotico-politique.
Voilà aussi, oui, bien aussi, sûr. Ouais, bon, ouais, le politique ouais. N'est pas très apparent à cette époque-là. C'est nous qui le jugeons aujourd'hui avec du recul quand on connaît un peu les ficelles de ceux qui ont tiré les ficelles de l'affaire. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, le désir de traiter ce sujet sous forme de roman ?
Alors, vous l'avez rappelé, cette histoire, j'allais presque dire ce fait divers des années 1630, a suscité beaucoup d'expressions artistiques très diversifiées. Parce que l'histoire est absolument saisissante et qu'elle met, j'allais dire, elle met en scène des personnages qui ont une épaisseur et une consistance tout à fait impressionnante. C'est-à-dire, c'est vraiment des vrais personnages. J'allais dire que c'était très facile pour un premier roman parce que j'avais très peu à inventer. Tout était là, il fallait même un peu raboter, parce que je tombais sur des choses dans les archives où je me suis dit, je ne vais pas mettre ça, parce qu'on va, on va vraiment penser que je suis non pas possédé, mais obsédé, ou alors que j'ai une imagination délirante. Donc il y avait une matière très forte. Il y avait en plus ce qui est, j'allais dire, très agréable et qu'on n'a pas finalement en philosophie. Il y avait vraiment un fil discursif qui était cette succession de procès et ce piège qui se referme sur ce prêtre, Urbain Grandier. Voilà, donc encore une fois, beaucoup d'expressions artistiques, vous l'avez rappelé, un opéra, des films, le film de Ken Russell, pour ceux qui l'ont vu, est absolument délirant, enfin des choses qui sont un peu paniques, du théâtre aussi, des essais, hein. Il y a Michel de Certeau a présenté les archives, Foucault parle dans un de ses cours, c'est le cours de 75 je crois, Les Anormaux de la possession de Loudun, même si... Il envisage surtout l'après Urbain Grandier, c'est-à-dire un épisode qui est postérieur par rapport à... et pas de roman. Et ce qui me plaisait, c'était l'idée... C'est vrai qu'il y a... Je suis beaucoup plus habitué par ma formation à la philosophie. C'est vrai qu'il y a une sécheresse conceptuelle qui faisait que quand j'essayais de rendre compte de cette histoire... J'allais dire, les concepts ne me servaient pas parce qu'il fallait pouvoir rentrer dans la tête des personnages et essayer de voir de quelle folle ambition ils étaient tous saisis et la manière dont ces vengeances provinciales, dont ces calculs politiques, dont ces ressentiments religieux et dont ces frustrations sexuelles se mêlaient en essayant de rentrer dans la tête de ces personnages, même si pour certains, je pense ici à Jeanne des Anges, c'était un peu compliqué, d'abord parce que... Oui, c'est vrai, il y avait le côté homme et femme, et parce qu'on touchait à la frontière quand même de la folie, c'est-à-dire ces formes de folie tout à fait étranges, qui sont les processus par lesquels on commence à se mentir à soi-même, et où on se maintient dans ce mensonge parce que autour de nous il y a des dispositifs sociaux qui vont se dire bah oui on peut se servir de ce mensonge pour
alors peut-être qu'on pourra lire d'ailleurs un petit passage là elle n'arrête pas de se répéter à elle-même c'était donc ça c'est un passage qui me paraît charnière c'est le moment où Jeanne des Anges après avoir discuté avec l'aumônier du couvent, Mignon, l'abbé Mignon, c'est lui qui lui suggère l'idée de la possession en définitive. Hein, et donc, comme si elle prenait conscience à ce moment-là, mais c'est un personnage très fin, hein, très, très fin, très habile, très complexe.
Ouais, je suis content que vous ayez repéré ce passage, parce que ça a été à la fois très compliqué pour moi et tout à fait important d'essayer de saisir, parce que l'affaire, je la rappelle très vite, il s'agit d'une affaire de possession, c'est presque du vocabulaire théologique. La possession, c'est pas l'obsession. Hein. C'est-à-dire, il s'agit pas simplement d'être traversé par des pensées impures, mais il s'agit de constater le fait que certains corps logent des diables, des démons, et à ce moment-là, il faut faire appel à des exorcismes pour les faire sortir, et on en profite d'ailleurs pour les interroger, et en même temps qu'on les interroge, on va se servir de ces interrogatoires comme pièce judiciaire.
Comme preuve
judiciaire, c'est-à-dire ce qui est très très osé, sachant que Saint Thomas avait dit le diable, même quand il dit la vérité, ment. Et là, il s'agit de dire, bah oui, on va interroger les diables et puis on va leur dire quel est votre maître, qui vous a envoyé, qui a signé auprès de votre grand chef, etc. Et puis une possession, ça se constate théologiquement, donc il faut des preuves. Enfin, c'est une notion juridique, c'est pas de la psychologie.
Hein, et d'ailleurs, vous distinguez très bien le phénomène de cette possession et celui des sorcières.
Oui, alors c'est très étonnant parce qu'on est à cette période très charnière. Grandier va être jugé, ce prêtre accusé d'avoir possédé ses sœurs, ses Ursulines, va être jugé comme sorcier. Et nous, assez immédiatement, quand on pense aux affaires de sorcellerie, on a un imaginaire qui date du 14e, 15e, 16e siècle, c'est-à-dire que assez vite, on imagine ces grands procès de sorcellerie dans la campagne ou après de mauvaises récoltes ou autre chose. Enfin, des femmes sont interrogées et sont accusées d'avoir porté le mauvais œil, etc., et sont brûlées en tant que sorcières. Voilà, pour nous, c'est vraiment ça, l'imaginaire le plus prégnant. Et là, au tournant du XVIIe siècle, on a de nouvelles affaires où ce sont des sorciers, c'est-à-dire le plus souvent des prêtres, qui sont accusés par...
Ou des médecins, quelquefois aussi.
Ou des médecins, qui sont accusés par des femmes cloîtrées, le plus souvent, donc souvent des religieuses, d'avoir envoyé des diables dans leur corps, et qui, parce que tout ça, j'allais dire, à la fois fait sourire, mais pris très très au sérieux, puisque ça fait la condamnation et la condamnation capitale, et on finit par brûler, et ça se passe dans des villes.
Oui.
Donc il y a vraiment un déplacement.
Oui. Tout à fait.
Il y a vraiment un déplacement.
Alors il se trouve que, en résumant un peu, vous focalisez votre regard sur trois personnages, je dirais en simplifiant, et trois personnages qui ont des rapports avec Bordeaux, en plus. Alors, Urbain Grandier...
Tout est parti de Bordeaux.
Oui, oui. Urbain Grandier a passé plus de 10 ans au noviciat des Jésuites. C'est là qu'il a eu sa formation. Urbain Grandier, son père était notaire à Sablé-sur-Sarthe, on en parle beaucoup ces temps-ci, hein, vous voyez à qui je fais allusion. Urbain Grandier va chez son oncle, un Grandier, donc son oncle paternel, qui est abbé à Saintes. Et c'est à partir de Saintes que son oncle donc l'envoie chez les jésuites à Bordeaux. L'ordre des jésuites, d'ailleurs, n'a été rétabli en France qu'en 1603 par Henri IV. Et apparemment, c'est en 1604 donc, que Grandier donc, vient au noviciat des jésuites à Bordeaux. C'est Aldous Huxley qui compare d'ailleurs la situation d'Urbain Grandier à celle de Descartes, qui va, lui, au Collège de la Flèche, à peu près au même moment, et aussi à Corneille, qui, lui aussi, va à un collège de jésuites à Rouen. Donc Urbain Grandier passe donc un certain nombre d'années à Bordeaux, mais aussi, alors, celle qui va devenir Mère Jeanne des Anges, et qui s'appelle Belciel ou Belcier. Et il y a un quartier Belcier à Bordeaux, et son père est de cause, aujourd'hui en Charente-Maritime, pas très loin de Royan, pas très loin de Saintes. Elle aussi, d'ailleurs, on va l'envoyer à l'abbaye aux Dames à Saintes. Et ensuite, elle va se retrouver à Poitiers. Et enfin, le troisième personnage qui me paraît très important, c'est, si je puis dire, celui qui a le rôle du policier qui poursuit, hein, qui est Laubardemont. Qui va mener le procès à charge, et vraiment à charge, et avec une sorte de cruauté assez extraordinaire. Or, à Bordeaux, il y a Cour du Chapeau Rouge, le grand hôtel qui abrite aujourd'hui la BNP. C'est l'hôtel Laubardemont, qui est un hôtel splendide, qui a été construit donc au fin 16e, début 17e. Et donc, alors tous ces personnages donc, ont fréquenté les rues de Bordeaux. J'en oublie un quatrième, qui est l'archevêque de Bordeaux.
Oui, oui.
Alors, il ne s'agit pas de François de Sourdis, mais de son frère, Henri de Sourdis, qui lui aussi donc, va avoir un rôle dans cette affaire. Alors que tout cela se passe à Loudun, donc, qui aujourd'hui se trouve dans le département de la Vienne, et donc pas très loin de Poitiers, dans la zone qui dépend de Poitiers. Donc est-ce que vous avez été sensible à ce tropisme bordelais, si je puis dire ?
Vous m'y rendez sensible, hein. C'est vrai que je n'avais pas autant senti à quel point tout ça se jouait à Bordeaux. C'est vrai que j'avais suivi... grandier dans, il a été formé par les jésuites à Bordeaux, et d'ailleurs le deuxième jésuite de l'affaire de la possession, mais qui suit, qui est Joseph Surin,
oui,
a été
oui.
formé lui aussi.
Mais qui intervient, oui, c'est vrai.
Oui, qui intervient bien après, vous avez.
Oui, non, oui, mais effectivement, lui, il est né et il est mort à Bordeaux, voilà. 1665, Joseph Surin, qui est un grand penseur. Hein.
Oui. Et d'ailleurs, Michel de Certeau a établi l'ensemble de ses œuvres, et on trouve des lettres qu'il envoie à Jeanne des Anges. Etc.
Tout à fait. Ah oui, il va avoir un rôle d'ailleurs important. Ouais. Et il va métamorphoser d'ailleurs Jeanne des Anges. Il va en faire en quelque sorte une mystique. Et une mystique qui va avoir un immense succès. Elle va être reçue par le roi Louis XIII, par la reine, par Richelieu, par les plus hautes autorités de l'État. Et elle va devenir presque un phénomène de foire, ou en tout cas...
Oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, sous Grandier, elle était déjà pas mal. Hein. C'était déjà un
personnage. Ah oui, bien sûr. Ah oui.
Avec cette idée, ça c'est quelque chose qu'on mesure assez mal, parce qu'on se dit, par rapport à la manière dont on peut se représenter aujourd'hui le fait pour une jeune fille, parce que dans ce couvent des Ursulines, ces femmes étaient quand même très jeunes, hein, c'était 17, 20, 22, 23 ans, etc. Et on peut se dire, mais au fond... Il faut vraiment qu'elles aient été punies par leur famille, condamnées, etc.
Mais c'est parce que les familles étaient nombreuses aussi. Il y avait beaucoup.
Oui, mais il s'agissait aussi de choix. Et pour une femme, j'allais dire, c'était qui pouvait être portée par les souvenirs, comme Jeanne l'était, de ses lectures de Thérèse d'Avila.
Oui.
C'était à la fois une mission et une manière de régner. Une manière de,
absolument.
Une manière de régner.
Tout à fait. Donc, un des mots qui est important dans votre livre, et c'est un mot très foucauldien, c'est le mot de pouvoir. Pouvoir au singulier et pouvoir au pluriel.
Oui. Ce qui m'a saisi avec tous ces personnages, c'est qu'ils étaient traversés par des ambitions évidemment contradictoires, mais vraiment des ambitions démesurées. Et même Jeanne des Anges, du fond de son couvent, en étant cloîtrée et condamnée donc à ne voir personne et à prier pour le salut des siens pendant toute sa vie, est portée par une ambition assez démesurée.
Alors,
c'est vrai que ce sont des pouvoirs très différents.
Oui. L'ordre des Ursulines est récent, en France en tout cas, et le couvent de Loudun est un des premiers couvents d'Ursulines en France, ce qui fait que la plupart effectivement de ces moniales sont jeunes, effectivement. Alors elles sont cloîtrées, mais elles reçoivent des élèves. Elles ont une mission d'éducation, ce qui les aide en quelque sorte à gagner leur vie, si je puis dire, d'un point de vue économique.
Oui, c'est... Alors cet ordre, au départ, l'ordre des Ursulines n'était pas cloîtré. C'est en arrivant en France que cette forme-là a été imposée. Et effectivement, à l'intérieur de six couvents, on reçoit des filles de bonne famille qui apprennent diverses arts, mais aussi à parler, à écrire, etc. Donc ça fait, j'allais dire, une ambiance évidemment tout à fait féminine, mais qui, par rapport, où il y a un certain mouvement par rapport à d'autres ordres un peu plus rigoureux. Ce qui va d'ailleurs poser problème, parce qu'elles tirent leur argent de cela. Avec l'affaire de la possession, vous imaginez que les bonnes familles de Loudun vont se dire, on va pas laisser nos jeunes filles au milieu de ces Ursulines qui hurlent toute la nuit, qui se dépoitraillent régulièrement, qui ont des caresses lascives à peu près toutes les cinq minutes, qui gloussent pendant les messes, c'est-à-dire tous les signes
qui ont des convulsions
de la possession, et puis qui ont ces convulsions,
mais bien particulières, qui ne ressemblent pas à des convulsions épileptiques, par exemple, c'est autre chose, puisque elles ont une certaine raideur du corps, par exemple.
Oui, alors après, moi j'avais découvert cette histoire au départ parce qu'il s'agit d'un, j'allais dire, il s'agit d'une trilogie. L'idée, c'était d'écrire évidemment trois histoires possédées magnétisée et hystérique, c'est-à-dire de, après Loudun, Mesmer, l'affaire des baquets de Mesmer sous la Révolution, et ensuite évidemment Charcot, où là Freud assiste à ces, à ces convulsions, c'est-à-dire de voir à quel point, j'allais dire, ces, ces phénomènes de convulsion et d'abandon féminin ont, ont, j'allais dire, ont mis en jeu la politique, la religion et un certain nombre de discours de
Savoie. Et la médecine aussi, à nouveau.
Oui, tout à fait. C'est vrai que le livre le plus, peut-être le plus complet, à la fois le plus lisible et le plus complet, a été écrit par un élève de Charcot. C'est un élève de Charcot qui a repris toute l'histoire et qui voyait évidemment des, dans les convulsions des Ursulines des phénomènes de ce qu'il appelle hystérie, quoi, de ce qu'il appelle hystérie.
Alors, en bon disciple de Foucault, vous, vous insistez sur ce moment là du tournant du XVIIe siècle, où il y a véritablement un changement qui s'opère, et notamment où il y a une sorte de manie qui s'installe de, d'introduire des catégories, de classer, de nommer, et vous insistez beaucoup sur l'importance de ces discours et des usages qui vont être faits de ces discours, par des greffiers, par exemple.
Il faut bien voir que ce que, oui, peut-être que ce que j'ai retenu de Foucault, comme ça, comme, comme, comme grille de lecture, comme manière de faire parler cette, cette histoire, parce que c'est vrai que j'ai pas retenu l'hypothèse qui a été l'hypothèse historiquement retenue de l'authenticité de la possession. C'est vrai que j'ai considéré que c'était un, plutôt un complot politique, hein, même, hein, puisqu'il faut bien voir qu'au même moment, Richelieu est, un, est en train de construire sa ville de Richelieu juste à côté de Loudun.
À 20 kilomètres.
À 20 kilomètres, qu'il essaye de décrédibiliser cette ville et qu'il y a un premier épisode de possession qui fait un peu pchit suite à l'intervention de l'archevêque de Bordeaux. Bordeaux, et que quand, quand le politique décide de s'en saisir, à ce moment-là, ça va jusqu'au bout. C'était, il y a ce mélange. Alors, ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que vous avez un mélange de radicalisme religieux quand même, parce qu'on est en pleine contre-réforme.
Tout à fait.
C'est-à-dire, il s'agit pour le catholicisme de se radicaliser, de revenir à une intransigeance et d'afficher à la fois cette intransigeance et sa supériorité sur ce qu'on continue à appeler la religion prétendument réformée, c'est-à-dire les protestants. Vous avez, donc vous avez ce radicalisme religieux, vous avez, ce, vous avez quand même cette, cette frustration sexuelle, cette, voilà, de ces... de ces jeunes filles qui évidemment fantasment, parce que de quoi s'agit-il quand même, d'un, d'un jeune prêtre dont on raconte qu'il a...
Parce qu'elles ne l'ont même pas vu.
Elles ne l'ont jamais vu, elles sont cloîtrées. J'allais dire, il y... voilà, on raconte des histoires un peu folles de d'orgies dans les églises ou pratiquement, en tout cas de consolations un peu rapprochées de jeunes veuves ou de conseils déplacés auprès de jeunes filles. Et il semble qu'effectivement, il ait fini par, par faire un enfant à la fille du procureur, ce qui était, j'allais dire, c'était assez... voilà, ça va.
Oui, il est intéressant aussi de voir quel pouvait être l'état des mœurs, je dirais, sexuelles des prêtres aussi, en
définitive. Oui, c'est vrai. Mais, et troisième, donc radicalisme religieux, frustration sexuelle... Et puis, apparition de la raison d'État quand même.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est Richelieu, c'est Louis XIII, et c'est le moment où, on va considérer que ça ressort de la raison d'État. Et en même temps, l'apparition, j'allais dire, qui pour nous est très, très contemporaine de la figure de la victime, de la pure victime.
Absolument, oui, c'est un élément très important. Alors vous montrez bien d'ailleurs comment les différents pouvoirs interfèrent les uns avec les autres, ce qui ressort des juridictions civiles, ce qui ressort des juridictions ecclésiastiques, et vous montrez comment le recours au roi, en quelque sorte, l'emporte sur tout ça, et en quelque sorte emporte le morceau, si je puis dire.
Oui, oui, à la fin, quand on décide vraiment d'en finir avec cette histoire... On va nommer Laubardemont, dont vous avez parlé, qui a été terrible au niveau des procès de sorcellerie de Guyenne, dont on sait que c'est un homme Béarn, tout fait.
Oui, oui, en Béarn, oui.
Vraiment, oui, dans le, oui, qu'il est prêt à tout. Et effectivement, on a une espèce d'instruction complètement délirante.
À charge, uniquement.
À charge, mais qui, à la fin, qu'on va être obligé d'arrêter, parce que vous imaginez bien que ce que va mettre en place Laubardemont, qui peut nous paraître démentiel, c'est qu'il va organiser des exorcismes publics.
Voilà.
C'est-à-dire que ces exorcismes-là, où on va réinterroger ces jeunes filles, les 3, 4, 5 qui étaient décidément possédées et pas seulement obsédées, on en fait, j'allais dire, des personnages de foire. On distingue 3, 4 lieux dans Loudun et se met en place un spectacle. Mais il y a foule.
Alors voilà encore un mot important qui revient souvent, c'est ce mot de spectacle, justement. Alors est-ce que c'est le début d'une société du spectacle ?
Bah dis donc, c'est vrai que c'est le... Oui, c'est la... C'est... Comment dire ? Cette dimension spectaculaire quand même du pouvoir, puisqu'il s'agissait d'affirmer la supériorité de la religion catholique, apostolique et romaine sur le diable lui-même. C'est-à-dire que la victoire remportée sur le diable, l'exorcisme, c'est quoi ? Ça consiste à faire sortir un diable. Mais pourquoi est-ce qu'il sort ? Parce que quand vous approchez avec la croix et en prononçant un certain nombre de paroles, il trouve ça absolument insupportable et il sort. Mais cet acte de sortie, donc, manifeste la supériorité de la vraie religion et en même temps, je le répète, ce diable, on l'interroge parce qu'il faut bien imaginer, assez concrètement la scène. Vous avez des sœurs qui sont non seulement prises de convulsions, mais à un moment qui se mettent à parler avec une voix qu'il faut imaginer rocailleuse, mais qui l'était effectivement. Or, c'est pas l'exorciste.
Oui, oui, j'y pensais.
C'est ça. Et là, ce qu'on entend, c'est le diable lui-même. C'est-à-dire, on n'interroge pas la sœur. On interroge le diable, et quand il se manifeste, on lui demande « Qui es-tu ?» d'abord, parce qu'il faut se repérer. Parce que,
et en latin, si possible.
Les enfers, je vous dis, il y a beaucoup de monde. Alors déjà, on s'aperçoit qu'ils ne répondent pas en latin. C'est quand même embêtant, parce que normalement, les diables connaissent le latin. Alors on dit « Oui, mais vous savez, ils sont pris ailleurs. Là, on a des diables de seconde zone. On est en province. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Donc ils parlent français. À part ceux qui logent dans la supérieure, qui, eux, connaissent un peu mieux le latin, donc on leur pose des questions et c'est le diable qui répond. Donc qui t'a envoyé ?
Il y a toute une hiérarchie donc de diables alors.
Ah oui, il y a une hiérarchie. Et puis il y en a plusieurs. Il faut d'abord savoir où ils sont logés. Alors sous les selles droites, au-dessus du sein gauche. C'est vraiment, on leur pose des questions et comment est-ce qu'il est rentré ? Parce que c'est porté par une imagination qui est très matérielle. Donc il faut savoir à quel moment tu es rentré, c'est au moment où j'ai respiré telle ou telle rose, où je me suis piqué.
Et il faut constater les signes également.
Il faut constater des signes. Et on retrouve même, recraché par la supérieure, le pacte même qu'a signé Grandier. Et quand on signe un pacte, on signe avec le sang. Donc on va voir Grandier, on essaye de trouver un endroit, alors on trouve une petite éraflure au niveau du pouce, il dit « bah oui, je me suis coupé en prenant du pain ce matin, mais non, c'est donc là, etc. » Il faut bien voir que tout ça est très très sérieusement établi. C'est pas de la psychologie, ce qui est même passionnant. Quand on regarde cette histoire, c'est la manière dont nos cadres psychologiques sont toujours complètement débordé par, j'allais dire, des matrices mentales entièrement juridiques. Quand, par exemple, je vais prendre une scène, c'est des choses que j'ai retrouvées, hein, parce que vous avez ce que vous retrouvez dans les archives sur d'immenses feuilles avec une écriture très linéaire et très belle, ce sont les procès-verbaux des exorcismes. Mmh. Parce qu'il y avait des greffiers qui étaient là, qui notaient question du juge, réponse du diable, nom du diable, etc. Tout ça, évidemment, était tout à fait sérieux. Et un des juges, pour essayer de contourner l'affaire et d'essayer de sauver Grandier, se dit... Parce que pour établir la possession, il y a un certain nombre de critères, dont le fait, justement, le diable est censé connaître toutes les langues.
Absolument.
Donc, à un moment, on trouve dans Loudun
un proviseur Duncan,
qui est anglais. On lui dit, tiens, on le fait venir. Et à ce moment-là, la supérieure est là, elle se met à hurler et commence à lui demander « What is your name ?» Et là, stupeur, la supérieure, les tremblements. Alors, il répète tout ça, etc. Et le juge, elle ne répond pas, etc. Et à ce moment-là, le diable sort cette phrase, mais je veux dire, dont l'élaboration montre, je veux dire, on n'aurait jamais pensé à dire ça. « Ah, tu savais que j'avais passé un contrat hier qui m'empêcherait de parler anglais. »
Elle est diabolique, mais en un autre sens. Là.
Oui, oui. C'est
elle est diabolique.
Dès qu'elles sont
coincées, elle a toutes les ruses.
Oui, elle a toutes les ruses. Mais après, la difficulté pour moi, et je reviens à ce passage que vous citiez, c'est qu'effectivement, parce que quand on dit elle a toutes les ruses, on se dit après tout, c'est des farceuses, des grosses farceuses, enfin bon... Même si le jeu est quand même un peu limite, on se dit, oui, elle s'amusait bien, après tout, ces jeunes filles s'ennuyaient, et puis on est dans l'imposture, etc. C'est comme si on était dans une espèce de farce, mais je pense que, non, qu'elles y croyaient. Et la difficulté, c'est précisément d'arriver à cette espèce de niveau mental où elles se racontent une histoire, où elles sont traversées par une histoire qu'on veut leur faire dire. Elles y adhèrent.
Enfin, elles y adhèrent.
Elles y adhèrent et c'est vrai que c'est... Voilà, elles se...
Quand la perche leur est tendue, elles la saisissent.
Oui, elles la saisissent. Et c'est vrai qu'elles... En même temps, ça leur permettait de... Parce qu'il faut bien voir que la réaction de Jeanne des Anges quand la possession tombe, c'est... Mais... Pourquoi nous a-t-il choisi ? Parce qu'effectivement, c'est une épreuve divine. C'est une épreuve.
Et il me semble que la première...
Donc il y a une espèce d'élection en même temps derrière ça.
Il me semble que la première qui a une crise, ce n'est pas elle, d'ailleurs, c'est une autre.
C'est une autre, c'est sœur qui était une nièce de Richelieu, d'ailleurs, parce que tout ça, tout le monde était... C'est une nièce de Richelieu, et c'est vrai que... La première réaction de Jeanne par rapport à ces manifestations, ça consiste à la mettre à la diète, à l'enfermer, etc. Et là, Mignon lui fait sentir qu'elle a peut-être une carte à jouer.
Voilà.
Elle a une carte à jouer et c'est la carte du « oui, j'ai été, ma sainteté est telle que je deviens la cible majeure pour le diable, évidemment. »
Alors je voudrais revenir à l'aspect politique. Parce qu'on s'aperçoit que celui qui va servir de relais à l'intervention du pouvoir royal, c'est le père Joseph. Alors le père Joseph, il appartient à quel ordre ? Je ne me souviens plus maintenant.
Il était, c'était les Capucins.
Un Capucin, oui, c'est un Capucin, oui, voilà. Oui. Les Capucins, c'est un ordre qui dépend des Franciscains, comme les Cordeliers, d'ailleurs.
Oui,
bon.
Oui,
donc, alors le père Joseph, on l'appelle l'éminence grise de Richelieu.
C'est l'éminence grise de Richelieu.
Voilà. Et alors, c'est un personnage, d'ailleurs, qui est assez fanatique, en définitive.
Hein, il est très fanatique. C'est celui qui a... Qui dans toute la France a tressé une espèce de maillage d'espions, ce qu'on appelait la police séraphique. C'est-à-dire que tous les moines... Il faut bien voir que la contre-réforme, c'est une entreprise de reconquête.
Hein. Tout à fait.
C'est une entreprise de reconquête des terroirs. Et l'Ouest était particulièrement visé parce que... La Rochelle, c'était quand même
La Rochelle tombe en 1628, il y a très peu de temps.
C'est quelques années auparavant, et on considère que ces terres du Poitou sont des terres infestées par les protestants, qu'il faut les reconquérir, et donc on fonde des ordres, et ces ordres ne sont pas seulement des ordres de moines contemplatifs, mais ce sont des moines qui font la police, c'est-à-dire qui font du renseignement. Hein. On est avant Fouché, mais se met en place une politique assez efficace qui fait remonter assez systématiquement les rumeurs. Et effectivement, que le père Joseph, apprenant que le prêtre de Loudun aurait des attitudes comme ça un peu douteuses par rapport à ces paroissiennes, considère que c'est un scandale qu'il faut faire arrêter. Et le père Joseph va contribuer, oui, à la chute.
Ah oui.
Il va contribuer à... Comment dire, il va...
Oui, il va amalgamer, en quelque sorte, le problème religieux, la question religieuse et la question politique.
Il va faire sentir à religieux, à Richelieu, que là aussi, il y a une carte à jouer pour lui
pour le pouvoir royal.
Au niveau du pouvoir royal, oui.
Tout à fait.
Non, c'est un piège, hein, c'est l'histoire d'un piège, et le pauvre Grandier, qui n'est pas forcément très sympathique, en tout cas au début, parce que c'est quelqu'un qui est...
Et qui n'a pas la tête politique.
Il n'a pas la tête politique, il est très content de lui, c'est-à-dire qu'il considère qu'il est très beau, qu'il parle bien,
voilà.
que rien ne peut lui arriver. Et encore une fois, jusqu'au bout, il n'y croit pas, parce qu'il se dit, mais enfin, ces femmes ne m'ont jamais vu, je ne vais quand même pas me faire brûler pour des histoires qui sont racontées dans un couvent. Cette histoire ne tient pas debout.
Oui.
En plus, il se sent appuyé par l'archevêque de Bordeaux, qui l'aide une première fois et qui après lui dit, écoutez... Soit vous partez, mais enfin, c'était votre dernière chance. Et lui, il reste.
Alors, il ne faut pas oublier non plus que ce qui s'est passé au siècle précédent, ce sont les guerres de religion, et qui ont certainement été le pire épisode de l'histoire de la France. Hein. On se tuait dans les familles pour des questions religieuses. Et Henri IV, justement, avec l'édit de Nantes, avait réussi à relativement pacifier en installant une forme de tolérance, justement, et avec des places qui appartenaient donc aux protestants.
Oui. Ah, oui.
Mais alors les rois Bourbons, et notamment Louis XIII, vont s'efforcer de supprimer toutes les places fortes, tous les châteaux, toutes les murailles, et il veut faire entendre, en quelque sorte, l'unité de l'État français.
Oui, politiquement, c'est vraiment le moment de la redistribution de l'espace politique.
Voilà.
C'est-à-dire l'espace politique français qui, depuis le Moyen-Âge, était un espace, j'allais dire, relativement discontinu, puisque c'était des seigneuries, etc.
Des fiefs.
Des fiefs avec une multiplicité un peu contradictoire et enchevêtrée de
fiefs. C'est la féodalité, en définitive.
C'est la féodalité. Et là, ce que va instaurer la rupture de Louis XIII et de Richelieu, c'est le moment où on va considérer que les vrais murs et les vraies frontières, ce sont les justement les points où on rencontre l'Espagne, on rencontre l'Allemagne, etc. Mais que la France doit se présenter comme un tissu sans couture, définir une espèce de place complètement homogène, parce que l'homogénéité même de la loi qui s'applique à tous doit définir cette continuité. Et donc, ce qui va être exigé, c'est de mettre à bas tous ces murs, toutes ces forteresses qui apparaissent comme des symboles déplacés de l'ordre ancien. Alors, quand il s'agit en plus de Loudun, où on se disait les protestants vont en profiter pour précisément se retrancher, etc. On avait peur de ça, donc on décide d'abattre les murs de Loudun qui faisaient la fierté de cette ville. Et le pauvre Grandier, qui n'a aucun calcul politique, lui, il trouve ça très beau, ces forteresses, et donc il se met d'accord avec les protestants pour faire partie du parti de ce qu'on appelait les anti-raseurs, parce qu'il y avait les raseurs et les anti-raseurs. Donc du côté des raseurs, il y avait tous ceux qui étaient du côté de Richelieu, de Louis XIII, le maire de la ville, Mesmin de Silly, etc. Et du côté des anti-raseurs, il y avait le gouverneur. Et Grandier, lui, n'a pas compris que, de toute façon, c'était trop tard, quoi. Donc il se met vraiment... Il se fait beaucoup d'ennemis, mais
absolument.
Comme il est aimé des femmes, il a l'impression que rien ne lui
arrive. Il est un peu vaniteux en même temps, ça le flatte.
Oui, il est très vaniteux. Et puis, encore une fois, l'archevêque de Bordeaux, qui était un personnage très haut en couleur au début, le rassure. Et lui, il se dit...
Il a bombardé Laredo, il a bombardé Guétaria en Espagne.
Ah oui,
ça nous parle, nous, Bordelais, tout ça.
C'est un homme de guerre.
C'est lui, d'ailleurs, qui a créé... C'est le premier créateur de la flotte en France.
Oui.
C'est un personnage important, Henri de Sourdis. Oui, oui. Alors, il y a un passage aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui qui compte. Bon, il y a le passage, par exemple, de la confrontation entre Grandier et les Ursulines.
L'évêque de Poitiers a cette idée, mais complètement saugrenue, qui consiste, mais publiquement, encore une fois, et la scène est réelle, à organiser une confrontation publique, parce qu'il y a... Il y en a eu deux avec les Ursulines, et il va même jusqu'à lui demander de les exorciser, ce qui est quand même, j'allais dire, très très
tordu. Alors qu'il n'est pas exorciste.
Alors qu'il est, et donc Grandier dit, est-ce seulement théologiquement correct? Lui qui est censé les avoir signé un pacte, et le... voilà.
Alors il y a un passage qui est superbe, qui concerne plus particulièrement le personnage d'Urbain Grandier. C'est celui que j'ai intitulé « La dernière nuit ». C'est la dernière nuit qu'il passe avant le jugement et l'exécution, puisqu'il sait très bien que le jugement va être un jugement de condamnation à mort et qu'immédiatement après, il va être brûlé. Et cette dernière nuit, je trouve que vous l'exprimez d'une manière très poétique, en tant que, justement, le rapport au présent, et à la mort, et à l'éternité, etc. Et là, je trouve que vous avez un vocabulaire et des expressions qui sont d'une très grande poésie, qui nous disent quelque chose sur le personnage de Grandier et sur son rapport et même son amour de la vie.
Oui. Alors c'est vrai que ce personnage de Grandier, ma difficulté, c'était de savoir qu'est-ce que je pouvais en faire. Soit j'avais une voie qui était plus ou moins tracée par Michelet dans la sorcière et qui consistait à en faire espèce de libertin arrivé un peu trop tôt, ou une espèce de proto-athée.
Parce qu'il y a des libertins à cette époque-là il y a une émergence des libertins.
Il y a des libertins, c'est-à-dire en faire quelqu'un qui se foutait complètement de la religion, qui a fait carrière évidemment dans l'Église, mais qui au fond cherchait. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé dans cette histoire, parce que ce qui est très très impressionnant avec ce personnage, c'est toujours cette prégnance de l'obsession juridique, c'est que jusqu'au bout, alors même qu'on va lui imposer les pires douleurs, il refuse de signer.
Ah oui.
Il refuse de signer l'arrêt selon lequel il reconnaît être sorcier.
Et ça, c'est absolument authentique.
Ça a été authentique, et à un moment, on lui fait un deal. C'est là qu'on voit que c'est drôle d'histoire quand même. Parce que tous ceux qui... parce que autour de Laubardemont, c'est-à-dire du commissaire qui est instruit en charge, il y avait tout un tas de capucins avec des noms d'ailleurs qui sont
à contre-emploi,
parce qu'il y avait Mignon qui est absolument horrible, il y a le père tranquille. Qui est frénétique, une espèce de fanatique frénétique, etc. Et tous ces moines qui participent justement à faire tomber Grandier sont persuadés que de toutes les manières, bien sûr, il triche un peu, etc., mais de toutes les manières, il va signer, et une fois qu'il a signé, ils sont sauvés.
Oui, oui.
Et là, vous avez cette espèce de force incroyable que Grandier puisse quand même quelque part, et c'est vrai que c'est... qui puisse dans un rapport très religieux et à la vie et à Dieu, et que j'exprime à la fin, et qu'il fait tenir contre l'Église.
Alors justement, vous donnez de l'importance à un personnage, le personnage de Maddalena. Alors vous l'appelez Maddalena, est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors que...
Si vous voulez, il y avait deux Madeleines déjà. Il y avait deux Madeleines, donc ça devenait un peu compliqué. Je trouvais que l'italianisation du nom lui donnait un charme supplémentaire.
D'accord.
Voilà. Et que ça... Voilà, ça
parce qu'au fond, c'est la femme. Parce que, bon, il a eu de nombreuses
il a eu des aventures
mais des aventures finalement assez superficielles. Alors que là, il tombe amoureux d'elle, véritablement.
Oui, oui. Et là aussi, c'est vrai que ce sont des choses qui sont soutenues à peu près dans les archives. Alors après, dans les archives, je la fais tomber enceinte. Mais
oui.
Non, elle tombe.
Ah oui, parce que justement, en fait, je m'aperçois que en lisant Certeau, il dit que, enfin, il fait dire à Grandier qu'il n'a plus de rapport charnel à partir de je ne sais plus quelle date, à partir du premier procès, je crois. Hein, que
oui, oui,
il
oui.
Dit ça, il
oui,
dit
oui.
Ça.
Et en même temps, le temps de la... ça fait à peu près 9 mois à partir du moment où il est enfermé, où il est brûlé. Donc c'est vrai qu'après, je me suis un peu laissé emporter.
Et alors Certeau aussi, alors c'est une remarque que vous n'avez pas retenue, apparemment, met l'accent aussi sur le rapport particulier qu'Urbain Grandier avait avec sa mère.
Oui.
Et il a l'air de dire que lui, Certeau, qu'au fond, Grandier, la seule femme qu'il a vraiment aimée, c'était sa mère.
Oui, oui, oui. Alors, je lui donne quand même une certaine importance, puisque Maddalena se retrouve avec...
Ah oui, oui.
Et elle s'appelle Jeanne aussi, d'ailleurs. Là.
Oui.
Sa mère, dans l'église, c'était vraiment une femme très forte qui m'a aussi beaucoup impressionné, parce qu'elle se bat jusqu'au bout.
Ah,
ses
oui.
frères aussi, mais un peu moins, pour essayer de trouver, j'allais dire, des... comment dire, des déverrouillages juridiques, parce que l'instruction à un moment est tellement à charge que, si vous voulez, juridiquement ça tient plus du tout. Lobardemont est obligé de retourner à Paris, où à ce moment-là on lui donne
entre parenthèses, je n'ai noté qu'une seule faute de...
Oh, une seule.
Une seule, savez, oui, oui, non, mais qui n'est pas de votre ressort.
Non, c'est un coup du diable.
À un moment donné, à propos justement du personnage de Lobardemont, alors qu'on devrait trouver la partialité de Lobardemont, le mot qu'on trouve, c'est impartialité.
Ah, oui,
oui, oui, oui, enfin, je le retrouverai. Je
ah oui, oui, ça, il faut, oui, oui, ça, c'est... Oui. Non, 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 je pense qu'il était très partial.
Mais bien sûr, bien sûr.
Il était très partial.
C'est même assez effrayant de voir... et cette partialité, le parti adverse en a parfaitement conscience.
C'est effrayant et en même temps, encore une fois, ce qui... comment dire... Ce qui fait tenir tout ce monde au moment où encore une fois, ils emploient les moyens les plus ignominieux pour le brûler, c'est qu'ils sont persuadés qu'il va signer. Parce que Lobardemont a vraiment une grande expérience en matière de torture et il sait que toujours les gens, pour s'épargner simplement des souffrances, finissent par...
Mais ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'il est condamné, on va le mettre à la question.
Oui, parce qu'il fallait, et oui, ça peut sembler normal.
On va lui broyer les jambes.
On torture avant, voilà. Mais là, on torturait après.
On torture après.
Il s'agissait de faire avouer les complices.
Et il y a encore pire, puisqu'au moment où il va être brûlé, on prévoit de l'étrangler. Et là encore, il y a un chantage, et on lui dit, si tu signes, tu seras étranglé avant d'être brûlé. Et il ne signe pas, donc il ne sera pas étranglé, et il sera brûlé directement.
Oui.
C'est dire les sommets de sadisme.
C'est vrai que les bourreaux avaient l'habitude, au moment où les gens étaient brûlés, d'ailleurs on trouve ça dans les représentations, on voit que les condamnés ont une espèce de corde autour du cou
avec un nœud.
Et en fait, les bourreaux régulièrement les donnaient un coup très très sec et donc les étranglait pratiquement.
Comme pour un pendu.
Voilà, pour épargner les souffrances. Mais là, le problème, c'est qu'on avait donc organisé cette espèce de spectacle, je reviens à votre
Toujours.
Terme,
oui.
qui était le moment où on allait brûler Grandier, et on voulait en faire un spectacle politique grandiose et de déferlement de haine.
Bien sûr, parce qu'il faut que la foule soit témoin de ça et participe au lynchage, en quelque
sorte. Et on était sûr que ça allait passer. Simplement, il y a ces moments de basculement. Grandier sort. Il faut savoir que avant de le brûler, on l'avait complètement tondu parce qu'on était persuadé que sans ça, les diables pouvaient se loger entre deux poils de sourcils, etc. Donc il avait plus de sourcils, plus de cheveux, plus de poils, une espèce de grande tunique blanche. Et quand il apparaît à la foule, en plus, avec les...
Pieds nus.
Avec les jambes broyées.
Oui, broyées.
Donc il peut à peine se tenir sur une espèce de charrette. Il avait été condamné aussi à porter un cierge immense. Et tout d'un coup, il y a une la représentation d'une espèce de fragilité, voilà. Immense, et tout d'un coup, la foule tourne.
Voilà.
La foule tourne en se disant, mais notre prêtre, notre curé, les femmes se mettent à pleurer. Alors, l'Aubardemont et tout autour, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on commence à essayer d'exorciser partout, etc. Et la foule commence à prendre justement la cause de Grandier, et le spectacle tourne en martyr, ce qui était, au niveau du calcul politique, la pire chose qui pouvait arriver. C'est après qu'il a été brûlé, on a essayé de récupérer des bouts d'eau, etc., des fragments de cette...
comme de futures reliques.
Voilà, il était devenu tout d'un coup une espèce de saint improbable. Et d'ailleurs, au moment, c'est pour ça que c'est un franciscain qui finit par mettre le feu directement sur le fagot pour empêcher le bourreau de l'étrangler. C'est que jusqu'au dernier moment, vous l'avez rappelé, on essaye de le faire signer, donc on lui dit et au moment où il se lève, Grandier a des paroles de paix, de justice, en lui rappelant Saint François, etc. Et ça produit une espèce de colère folle. Et donc, voilà, on met le feu au fagot qui s'embrase tout de suite et très vite. Et il n'a pas le temps
d'être... Alors, vous arrêtez le roman à cet épisode, à la mort de Grandier. Mais la possession va continuer en quelques années, et c'est là que va intervenir le père Joseph Surin. C'est très intéressant. Et là, il va y avoir une sorte de métamorphose de Jeanne des Anges, hein, qui va en quelque sorte appliquer ce qu'elle avait appris en lisant Thérèse d'Avila.
Oui. Alors c'est vrai que je me suis demandé à quel moment finir le roman.
Mais vous avez bien fait d'arrêter là.
La seconde perfection, l'air de dire oui, on avait déjà assez, c'est ça.
Non, mais c'est important, je veux dire.
Bien sûr, ça faisait une césure. Ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, c'est la période d'après, d'ailleurs, qui a intéressé Foucault. C'est-à-dire que Foucault, quand il travaille sur Grandier, c'est pour examiner cette espèce de rapport sadomasochiste complètement fou qui s'installe entre ce père Surin et cette Jeanne des Anges, où à travers le parloir, ils se flagellent l'un l'autre, etc. Enfin, c'est assez abominable. Il devient complètement fou, c'est-à-dire que... Il a cette il devient mutique dès qu'il doit prononcer une messe, ce qui, j'allais dire, pour un religieux, est une espèce de syndrome qui est quand même très 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 compliqué. C'est-à-dire que dès qu'il doit prononcer la messe, il est mutique. Donc je veux dire, elle le rend fou pendant des années. Mais là, ce qui a fait que je suis pas allé vers ça, c'est que pour moi, j'étais porté et en même temps structuré pour raconter le premier épisode, j'allais dire, par des faits. Et j'avais peur de trop me laisser entraîner dans la psychologie.
Sûr.
Surtout que rester dans la tête de Jeanne des Anges, c'était un peu compliqué. Alors Surin, c'était trop pour moi.
Oui, bien sûr. C'était un autre sujet.
C'est un autre sujet. Mais c'est vrai que le film polonais très très beau dont vous parlez commence après.
Mère
Jeanne des Anges, voilà. Alors que le film de Ken Russell se concentre justement...
Mais malheureusement, on ne trouve plus les DVD de ces films aujourd'hui. Hein.
C'est compliqué, mais le film polonais est en noir et blanc. C'est quelque chose d'assez magnifique. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont plus difficiles à...
Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire d'autres romans, ou est-ce que vous allez achever...
Je vous l'ai dit, je suis sur Mesmer maintenant.
Ah, vous êtes sur Mesmer.
Je suis sur Mesmer, donc l'ambiance... Alors d'abord, l'ambiance politique est tout aussi prégnante parce que c'est la Révolution française, donc c'est vraiment un moment très important. Un grand historien, Robert Darnton, a écrit un livre tout à fait impressionnant, essayant de montrer que qu'on ne parlait que de Mesmer pendant la Révolution française. On l'accuse d'avoir magnétisé les grands chefs révolutionnaires. Donc, en fait, Révolution française aurait été le fait de...
Il va avoir une influence au XIXe siècle.
Il va avoir, au XIXe siècle. Et c'est le moment où ça va basculer. Ça bascule pas encore... ça commence à basculer dans l'hypnose, puisque c'est avec le marquis de Puységur qu'on tombe dans... mais on est dans la médecine magnétique, et ça commence au départ avec les exorcismes. Quand je dis que ça commence avec les exorcismes, je veux dire par là que dans l'affaire de ce qu'on appelle le mesmérisme, Mesmer est persuadé d'avoir découvert ce qu'il appelle l'existence d'un fluide magnétique qui nous traverse tous, et au fond la maladie serait due à une mauvaise composition de ce fluide. Et il invente une thérapie, folle, qui consiste à approcher les mains et avec des pinces à redistribuer les fluides magnétiques. Et évidemment, vous imaginez bien que tout le monde guérit. Tout le monde guérit. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, tout le monde guérit. Alors il a un petit problème à Vienne aussi avec une jeune pianiste aveugle qu'il guérit de sa cécité hystérique. C'est-à-dire, je ne pensais pas qu'on pouvait être aveugle hystériquement, mais oui, c'est-à-dire qu'elle elle voit, mais en fait elle ne voit pas. C'est comme quand vous avez un très gros rhume, vous mangez, vous ne sentez rien. D'accord. Imaginez la même chose avec la vue. C'est-à-dire que vous voyez, sauf que vous ne voyez rien. Mesmer l'a guérie, sauf qu'elle n'arrive plus du tout à jouer du piano. C'est un personnage historique. Mozart a écrit un concerto pour...
C'est Mademoiselle Jeune-Homme ?
Oui, c'est ça.
Ah, c'est elle ?
Oui, c'est elle. Et puis, il y a une histoire qui oblige... on imagine une histoire un peu charnel qui oblige Mesmer à fuir. Elle redevient aveugle, et donc c'est très bien parce que les parents continuent à toucher la pension, parce que les parents étaient un peu effrayés parce qu'ils touchaient une... et il arrive à Paris dans ces années pré-révolutionnaires, et là entre Marie-Antoinette et d'autres,
les
salons, et aussi, alors c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il est pris par des mesmériens de gauche, parce qu'assez vite il y a les mesmériens de droite et les mesmériens de gauche, et les mesmériens de gauche disent mais oui, c'est ça la révolution, au fond tous ces médecins n'en veulent qu'à notre argent, avec précisément la médecine magnétique, c'est pas cher, c'est facile, on soigne tout le monde, et j'allais dire ça se complique du religieux, je veux dire par là que le geste qui consiste à approcher la main pour guérir et pour sauver, vous imaginez bien que théologiquement, il y a une relecture de l'imposition, de l'imposition des mains et des gestes christiques. C'est une affaire là aussi tout à fait passionnante. Et...
Donc vous avez l'intention de continuer à écrire des romans, alors, ça vous plaît ?
Ah oui.
Parfait. Eh bien, merci pour votre attention.
Merci à vous.